va laisser la parole pour une dernière intervention à Pierre-Yves sur un de ses thèmes fétiches.
Oui.
Voilà. Donc, le décrochage scolaire, un révélateur de la forme scolaire.
Oui, donc, ce que je vais vous présenter là, c'est une série de réflexions, effectivement, à partir de données assez diverses. Il ne s'agit pas d'un terrain particulier. Autour donc, de cette réflexion qu'on devait avoir aujourd'hui sur la forme scolaire. Donc, voilà, c'était une espèce d'exercice pour moi de raccorder la forme scolaire et la question du décrochage scolaire. Ça vient aussi, alors, parce qu'il y aura beaucoup d'extraits d'entretien ou de verbatim, un intérêt pour ce que les jeunes en décrochage disent de l'école. Et cet intérêt qui a suscité plutôt des travaux que j'ai réalisés avec Christophe Michaud montre qu'il y a un discours des jeunes en situation de décrochage scolaire sur l'institution scolaire. C'est très frappant, hein, c'est-à-dire quand on leur demande pour quelles raisons ils quittent l'école, ils ont tout de suite des choses à dire. Plus ou moins précise et plus ou moins aimable d'ailleurs, sur l'école en tant qu'institution, pas sur une expérience particulière de l'école, mais sur l'école en tant qu'institution. Et puis, c'est aussi quelque chose qui faisait écho à l'intérêt donc, pour les alternatives de forme de formation, hein, puisque donc, j'ai travaillé sur les dispositifs de la Mission Générale d'Insertion, à l'époque où ça s'appelait encore la MG, donc l'actuelle MLDS, les écoles de la deuxième chance, et aujourd'hui les écoles de production. Donc je vais utiliser aussi un peu de mon corpus, quelques extraits d'entretien, enfin, pas très nombreux, mais qu'on a réalisé avec Pauline et Céline. En fait, le lien entre forme scolaire et décrochage scolaire, c'est deux types de questions. Il y a d'abord, je dirais, une question assez évidente en quoi ce concept de forme scolaire révèle le rapport à l'école d'une partie de la jeunesse. Hein, comme je viens de le dire, en fait, c'est très direct. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi d'intervenir à ce niveau-là aujourd'hui, parce que effectivement, les jeunes parlent beaucoup de forme scolaire. Ils parlent beaucoup le langage de la forme scolaire, d'une certaine manière, comme je vais essayer de le montrer. Il y a aussi une autre question, alors qui est plus compliquée, c'est comment ce concept de forme scolaire permet de comprendre le questionnement politique sur le décrochage scolaire, c'est-à-dire le décrochage scolaire comme une question qui apparaît à un moment donné, à l'heure même que cette question n'existait pas avant, et comment cette question d'ailleurs varie dans le temps et trouve des réponses d'ordre politique, et qu'est-ce que ça nous dit d'ailleurs, ces réponses politiques, sur la forme scolaire. Voilà, donc en fait, on a là un ensemble de questions beaucoup plus complexes. Je n'ai pas du tout la prétention d'y répondre, mais enfin au moins d'essayer de les poser. C'est ce que je vais faire aujourd'hui, donc en deux parties. J'ai essayé d'aller assez vite pour permettre à nos camarades aixois de pouvoir prendre la navette à l'heure. Donc voilà, j'ai divisé mon intervention entre ce que les jeunes en décrochage disent de la forme scolaire et ce que la forme scolaire dit du décrochage. Donc, la première partie, ça répond à la question, je dirais, assez classique du discours des jeunes, d'une partie de la jeunesse. Ici, on ne parle pas des jeunes en réussite scolaire, mais plutôt des jeunes qui décrochent. Qu'est-ce qu'ils disent de la forme scolaire? Et aussi, qu'est-ce que la forme scolaire dit du décrochage comme question politique, hein. Alors, donc, pour répondre à la première question, je me suis appuyé sur une conception de la forme scolaire tirée directement de Guy Vincent, avec une simplification qui est donnée dans les entretiens là, avec Courtebras et Rotter. Une forme, c'est un espace, un temps, une relation. Hein, c'est la façon dont ils le disent. Donc, un rapport au temps, le temps scolaire, enfin, tout ça, ça a déjà été dit, donc je vais aller assez vite. Le rapport à l'espace et le rapport pédagogique, la séparation du savoir et du faire, le découpage de la discipline et l'imposition aussi de la discipline comme un ordre. Alors, j'insiste là-dessus parce qu'on va y revenir dans la deuxième partie sur est-ce que cette imposition de la discipline est spécifique à la forme scolaire telle qu'elle est décrite dans les deux caractéristiques précédentes. Alors, pour appliquer ce modèle-là, je me suis servi de sources diverses, essentiellement de l'enquête MODS 2015 qui a été réalisée dans le cadre du programme TEDS, qui a fait déjà l'objet de plusieurs publications, dont une dernière dans la revue Formation Emploi, dernier numéro de 2018. Et en fait, ce que je vais vous présenter n'a pas encore fait l'objet de publication. C'est toute l'exploitation dans cette enquête par questionnaire qui a été donc réalisée auprès de près de 3000 jeunes de 5 académies en France. D'une question ouverte, pourquoi avez-vous interrompu vos études ? Et à cette question ouverte, les jeunes, en début de questionnaire, répondaient spontanément, de manière plus ou moins détaillée. Alors, j'ai plutôt pris des réponses qui étaient un peu plus, un peu plus longues que les autres. Et c'est à travers donc, cette question-là donc, que je vais présenter ce que disent les jeunes de la forme scolaire. Mais je me suis aussi donc, servi de l'enquête « Apprendre autrement », l'exemple des écoles de production. C'était ça le sigle au départ, le sigle AALEP. Donc, des entretiens auprès de ces élèves. Alors, ce qui apparaît massivement de ce corpus, c'est que les jeunes répondent de manière à considérer que finalement leur rapport à l'école est quelque chose qui est du registre des dispositions incorporées. Alors, voilà plusieurs exemples qui vont illustrer ce qui est justement du domaine des dispositions, du registre des dispositions et de la façon dont c'est incorporé. Voilà déjà une première réponse. Simplement parce que je ne suis pas très scolaire. Vous voyez, donc on est scolaire ou on ne l'est pas. Hein. Les jeunes en décrochage scolaire ne sont pas scolaires. Je n'aime pas trop tout ce qui est école et je préférais aller dans le concret. Hein. Donc, la disposition, c'est celle-là, c'est qu'on n'est pas fait pour l'école, justement pour le savoir, et il s'agit d'aller vers quelque chose qu'on imagine être le concret. Je tiens à souligner que c'est un verbatim d'un élève de terminale professionnelle. Donc par rapport à la question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que l'enseignement professionnel est un lieu d'innovation pédagogique, etc., etc. Je pense que là, on va avoir des éléments de réponse. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, qui décrochent de l'enseignement professionnel et qui reprochent à cet enseignement professionnel d'être trop abstrait. Alors, dans l'incorporation, il y a toutes ces références à la position assise et à la chaise. Alors là, il y a un nombre très important de réponses de ce type-là, parce que je n'aime pas l'école à la base, je ne supporte pas d'être assise sur une chaise, je trouvais ça long. Hein, donc là, il y a la dimension de la physique, hein, de la posture, et puis il y a la dimension du temps. Je trouvais ça long, bah, sous-entendu, évidemment, je ne voyais pas trop ce que je faisais là, je m'ennuyais. Rester assis sur une chaise, c'est être à l'école. Quand on travaille, on n'est plus assis sur une chaise. Vous voyez, donc, non, parce que franchement, je n'aimais pas, j'en avais marre de rester assis sur une chaise, je voulais travailler. Voilà. Alors, je ne l'ai pas repris ici, mais il y avait une autre citation que je trouvais intéressante, c'est que moi, il y a quelqu'un qui a dit textuellement, moi, je veux être debout, je veux travailler. Vous voyez, donc, c'est vraiment corporel, quoi. C'est la position du corps. Alors, il y a des choses qui renvoient à d'autres registres, je vais y revenir après, mais ils sont toujours, malgré tout, dans les dispositions. Alors, cette fois-ci, des dispositions... Vous voyez, dans les premiers cas, c'est plutôt des dispositions que les jeunes présentent comme des dispositions très durables. Hein. Je ne suis pas très scolaire. Après, il y a des dispositions acquises ou non acquises. Et là, donc, voilà, ça va être un peu, d'ailleurs, la transition avec le... la suite, hein, parce qu'en fait, j'étais motivé et tout. J'étais en cours, mais je voulais faire de la pratique, la théorie, ça me démotive. Vous voyez, donc il y a motivé pour la formation, mais quand même avec une disposition qui est centrée sur un rapport à la pratique, la théorie me démotive. Encore une fois, un élève de terminale professionnelle. Voilà, donc pour faire bonne mesure, donc avec ce qu'a présenté Pauline, j'ai repris un extrait d'entretien d'un élève en CAP dans une école de production historique. Je me suis dit, je préfère travailler, être dans le métier manuel, plutôt que de rester en cours, assis, écouter. Oui, alors, je me sens mieux ici. Alors, écouter aussi, ça revient souvent. Quand on est à l'école, on écoute. Alors, il y a d'autres registres qu'on peut mettre en évidence. Les registres de la motivation et de la capacité. Voilà, la perte de motivation, je ne me sentais pas capable de continuer. Donc il y a aussi ce rapport à l'école comme quelque chose qui devient de plus en plus inaccessible, voire quelque chose d'inutile. Ça aussi, on va le retrouver assez souvent, hein, une justification par le savoir scolaire inutile, parce que j'aime pas, pour moi, ça sert à rien et ça ne m'intéresse pas. Voilà, donc ça c'est un élève de seconde, ou encore après la troisième, j'ai été déscolarisé car ça ne m'apportait rien d'aller à l'école, c'était d'apprendre pour apprendre et non apprendre pour comprendre, donc j'ai préféré arrêter pour trouver des stages pour un élève qui sort du système éducatif en fin de troisième. Donc voilà, qui considère que les deux dernières années, je ne sais pas si c'est quatrième et troisième ou si c'est deux troisièmes, mais en tout cas, il y a là non plus simplement une disposition, mais un jugement sur ce que lui a apporté, en tout cas, à ce jeune le système scolaire. Voilà, donc on a une assez forte opposition à la forme scolaire telle que je l'ai définie tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport au temps, c'est l'ennui, hein, donc on retrouve souvent la référence à l'ennui. Le rapport à l'espace, j'ai trouvé quand même une citation, hein, « j'aime pas être enfermé ». Ce rapport à l'espace, il est moins souvent dit d'emblée, mais on peut supposer qu'il est souvent implicite. Et alors le rapport pédagogique, avec un jugement très négatif, hein, sur les enseignants. Bon, j'avais déjà donné un exemple tout à l'heure, mais là les profs sont démoralisants, ou aucune motivation de la part des profs, ils ne me donnaient pas envie de continuer et j'en avais marre du lycée. Et là, je pense qu'on a quelque chose qui montre que la notion de forme scolaire comme très formelle, comme une forme justement, peut-être voir, rencontre un certain nombre de limites, puisque, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, à l'intérieur de cette forme scolaire, il y a des engagements plus ou moins forts, il y a des marges de manœuvre, il y a de l'action professionnelle, et on voit ici que, par exemple, les élèves sont extrêmement sensibles au désengagement des enseignants. Ce qui nous amène donc à... Ce qui m'amène à la deuxième partie. Ça va, je suis dans les temps, mais... Ça va encore pour le bus. Donc voilà, ce que la forme scolaire du décrochage. Alors, il y a une première série de réponses qui consiste à dire, eh bien, finalement, la forme scolaire nous dit qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont inadaptés à cette forme scolaire, qui sont inadaptés pour des raisons sociologiques. Hein, c'est la thèse de Vincent et qui reprend les travaux sur la reproduction sociale, les travaux de Bourdieu. Et donc, voir le décrochage scolaire comme un processus de tri, l'exclusion des élèves les plus éloignés de la forme scolaire, et finalement comme une espèce de solution pour préserver la forme scolaire, puisque les élèves qui peuvent être potentiellement perturbateurs de cet ordre scolaire s'en vont, voire même on les exclut, hein, puisqu'il y a un certain nombre de ces jeunes qui déclare avoir décroché suite à des exclusions. Voilà, alors, cette réponse-là, je la trouve intéressante, mais peut-être pas tout à fait satisfaisante, puisqu'il y a une diversité de l'ampleur du décrochage scolaire dans l'espace. On décroche plus ou moins entre les académies en France, mais surtout d'un système éducatif à un autre. Quand on fait des comparaisons internationales, on s'aperçoit que le décrochage scolaire peut être plus ou moins important. Et puis, dans le temps, je vais y revenir, il y a des politiques qui se sont mises en œuvre, parfois assez tôt dans certains pays, plus tardivement dans d'autres, et puis il y a des évolutions sociétales qui font que le rapport, on a beaucoup parlé des classes populaires, mais le rapport des classes populaires à l'école, à mon sens, a profondément changé historiquement. Aujourd'hui, dans la plupart des milieux, comme l'a bien montré Tristan Koulawek, on attend d'une scolarité qu'elle soit réussi, achevé, et que beaucoup d'enfants des milieux populaires, d'ailleurs, réussissent à répondre aux exigences de l'école. Voilà, donc, est-ce que la forme scolaire est plus ou moins adaptée ? Est-ce qu'elle serait peut-être aujourd'hui mieux adaptée, puisqu'il y a moins de décrochage scolaire qu'il y a 40 ans ? Ou est-ce que c'est le concept de forme scolaire qui est, lui, peu adapté pour traduire cette diversité à la fois spatiale et temporelle ? Alors, pour y répondre, je pense, j'ai choisi de faire référence à deux cadres théoriques assez différents. Un premier cadre théorique qui est une interrogation sur le côté formel de l'institution scolaire et notamment les apports de l'approche néo-institutionnaliste, les théories dites du découplage, développées d'abord par Meyer et Rowan aux États-Unis, notamment à partir d'une enquête restée célèbre sur les écoles californiennes et qui ont été popularisées dans la littérature française par Christian Marois, qu'on a déjà cité d'ailleurs tout à l'heure. Alors, c'est quoi le découplage ? C'est l'idée que l'activité d'enseignement est peu contrôlée, peu coordonnée. Hier, Erwan insiste sur le fait que, par exemple, on se préoccupe assez peu de savoir si, d'une classe à l'autre, à un même niveau, on apprend exactement les mêmes choses. On se préoccupe assez peu de savoir si les élèves qui ont suivi un niveau de classe ont vraiment appris ce qu'il y avait de prévu dans le curriculum pour passer dans la classe supérieure. Bon, bref. La coordination est assez floue, alors que, à l'inverse, les organisations scolaires vont présenter un certain nombre de règles très strictes sur la répartition des élèves par classe, la répartition des enseignants par qualification, sur la délivrance des diplômes, etc., etc., à travers donc, ce que Meyer et Rowan appellent des classifications rituelles. Pourquoi ? Parce que ces classifications permettent d'avoir une traduction sociale. Exemple type, c'est le diplôme. Enfin, voilà, on va être défini par un niveau de diplôme dans la société, etc. Voilà. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Si on parle de l'institution scolaire, pas simplement de la forme scolaire, c'est une institution dans laquelle il y a du formel, du très formel même. Hein, par exemple, les emplois du temps, hein, ça a déjà été cité. La dimension spatiale, etc. Et puis il y a quelque chose aussi de beaucoup plus informel, voire de très improvisé. N'importe lequel d'entre nous qui a déjà enseigné sait que c'est forcément une partie de l'activité d'enseignement. Voilà, donc, et les élèves sur les pratiques effectives, je vais aller assez vite, hein, peut-être pour laisser du temps à éventuellement quelques questions. Le jugement sur les pratiques effectives le montre aussi, et là, je reprends deux extraits d'entretien tirés du travail sur les écoles de production, qui m'a beaucoup, pas surpris, mais que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'ils parlent de leur expérience au collège. Donc, ils sont en école de production. Ils parlent de leur expérience au collège. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ici, c'est un peu plus strict. C'est comme si on avait un patron et on doit faire tout ce qu'il dit sans répondre. Vous voyez, la question du silence, on le retrouve dans l'école de production. Au collège et au lycée, ce n'était pas la même chose en fait. C'était moins. Bon, c'était plus à la cool. Voilà. Donc, la forme scolaire, quand même, assez molle au collège et au lycée. Eux, les profs de collège, ils n'ont pas d'autorité par rapport à ici. Ils ont l'autorité ici. On va les écouter quand ils vont parler. Exactement. Vous voyez le renversement de ce qu'on a montré tout à l'heure. Au collège, on leur répondait. Voilà, donc ça c'est la première référence théorique, et puis l'autre référence théorique, c'est autour des conventions et des régimes d'éducation et de formation, pour bien souligner que finalement, l'institution scolaire, c'est aussi un lieu de compromis entre formes différentes. Vous êtes obligé d'y aller ? Bon, je suis désolé.
C'est des choses que je connais.
Oui, ça oui, tu connais bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc,
Oui, c'est ça. C'est Pierre-Yves qui te fait décrocher.
C'est la
bon retour à Aix. Voilà, donc, J'ai un peu plus de temps, là, du coup.
Non, mais c'est bien qu'on puisse te poser quelques questions.
Oui, voilà. Ce que je voulais souligner, c'est, alors, à travers les références, pas que vos travaux d'Éric, hein, mais aussi de Jean-Louis Derouet et Yves Duterte, sur les établissements scolaires, et sur la façon dont les établissements scolaires vont combiner des principes de légitimité qui, a priori, sont différents, mais qui vont constituer des arrangements qui permettent à l'établissement de fonctionner. Bref, on peut considérer le monde scolaire comme un monde de compromis, et ce que ne permet pas, à mon sens, de bien percevoir la notion de forme scolaire. Et on peut considérer que dans le cadre d'Éric, la forme scolaire, ça correspondrait grosso modo à ce qu'il appelle la convention académique. Je voudrais détailler pour montrer qu'il y a des petites différences, mais en gros, dans ce qu'il analyse comme étant les régimes d'éducation et de formation à la forte convention académique, on retrouve la même chose, grosso modo, que ce que dit Guy Vincent, c'est-à-dire quelque chose de très, à la fois très standardisé, très séparé, avec une forte séparation entre l'école et le monde extérieur, et une forte valorisation du savoir abstrait. Avec l'idée, qu'on trouve chez Vincent, qu'il faut apprendre pour apprendre, ou tout au moins que les savoirs scolaires ont leur propre finalité. Hein, que la finalité des savoirs scolaires n'est pas à l'extérieur du savoir scolaire, mais est dans le savoir scolaire. Or, ce modèle donc, développé par Éric montre que cette forme scolaire peut être contestée, et elle a été d'ailleurs finalement assez souvent, à partir d'autres conventions qui, elles aussi, ont leur légitimité. La convention professionnelle, la forme scolaire ne prépare pas bien à la vie active. La convention universaliste, la forme scolaire est inégalitaire et excluante. Voire la convention marchande, hein, la forme scolaire trop rigide et coûteuse. Hein, je faisais allusion en introduction, Yves, aux intérêts économiques, ou le fait qu'elle ne répond pas à la demande, etc. etc. Donc le décrochage scolaire, qui peut être une solution, comme je l'ai dit précédemment dans la forme scolaire, peut devenir aussi un problème. Et à partir du moment où elle devient un problème, elle devient un problème dans les différents sens du terme, c'est-à-dire un problème public, mais aussi un problème dans les établissements, dans les classes, je dirais à différents niveaux, un problème quand il s'agit de prendre en charge les élèves qui souvent sont un peu compliqués à prendre en charge, et un problème au sens où il faut aussi trouver des formes de prise en charge, d'innovation pédagogique, etc. etc. Et donc, on peut envisager que la forme scolaire puisse faire l'objet de réformes, de transformations, et donc de politiques visant à mieux prendre en charge ses élèves. Et je trouve que, de ce point de vue-là, les politiques de lutte contre le décrochage scolaire illustrent le découplage dont j'ai parlé tout à l'heure. On a d'un côté des actions significatives, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais rien que la multiplicité des sigles montre bien le côté très standardisé et très normatif de ce que l'école ou de ce que le système scolaire donne à voir. On fait de l'identification, SIEI, la MLDS donc, accompagne les jeunes, les GPDS dans les établissements font de la prévention du décrochage. On coordonne les établissements entre eux à travers les réseaux focales, on coordonne les différents acteurs du système éducatif à travers les PSAD. Alors, si vous voulez la signification des sigles, je vous les donnerai après. Et voilà, ça c'est la dimension très structurelle et très dure en quelque sorte, très formelle. Mais à côté de ça, évidemment, sur le plan des pratiques, on en est simplement, et on ne peut en être qu'au niveau de recommandations de bonnes pratiques d'enseignement, plus collaboratives, bienveillantes, attentives aux difficultés des élèves, etc. Ce qui fait que la mise en œuvre réelle va être variable. Alors, il y a une belle enquête du CEREC, de Dominique Maillard et d'autres de ses collègues, sur les GPDS. Les GPDS, c'est les groupes de prévention du décrochage scolaire. Ces groupes sont censés faire de la prévention en identifiant dans les classes les élèves qui sont dans un processus de décrochage cognitif, par exemple, ou qui ont des difficultés particulières, bon, et normalement doivent faire l'objet d'un travail d'équipe. Eh bien, sur les GPDS tels qu'ils ont été enquêtés par les collègues du CEREC, sur plus d'une centaine d'établissements, Il y en a à peu près la moitié où il n'y a pas d'enseignant dans le groupe. Et donc là, c'est vraiment l'exemple du découplage, c'est-à-dire que il y a la dimension externe assez dure, hein, voilà, on va faire la lutte contre le décrochage scolaire, mais à l'interne, finalement, il y a peu d'implication, ou pas d'implication même, du tout, de la part des enseignants de l'établissement. Voilà, donc, cette crise de... Alors, deuxième apport théorique, la crise de la forme scolaire peut avoir aussi plusieurs orientations possibles sur le plan politique. Bien sûr, on pourrait rêver d'une école plus inclusive, plus adaptée aux besoins, plus personnalisée, un peu comme le rêvait finalement Guy Vincent à travers l'exemple que tu donnais tout à l'heure, André. Mais on peut aussi aller sur le volant professionnel, c'est les écoles de production par exemple, à développer l'alternance et tout. Allez, on peut aussi être dans une logique marchande, on va mettre en concurrence les établissements, on verra, et on les met en concurrence sur le critère, par exemple, de la persévérance scolaire, c'est ce qui se fait aux Pays-Bas. On peut aussi renforcer la convention académique, mais pourquoi ? Parce que, tout simplement, il y a des logiques professionnelles, des appuis politiques, idéologiques, qui peuvent considérer que cette convention académique ça représente la véritable école, les méthodes d'autrefois, les méthodes traditionnelles qui marchent. Donc voilà, donc il y a une lutte contre le décrochage scolaire, certes, mais des politiques incertaines, variables, peu cohérentes, des configurations territoriales très diverses. C'est ce qu'a montré Éric Verdier, je pense que l'article il le connaît aussi, dans le numéro de formation emploi que j'ai cité tout à l'heure, donc dans la postface de ce numéro. Donc j'en arrive à ma conclusion. On peut considérer que le décrochage scolaire, c'est une forme de contestation de la forme scolaire, c'est une contestation de la forme scolaire, à travers ce qu'on dit les jeunes, à travers une certaine crise de l'école que ça révèle et par les politiques que ça suscite. Et voilà, plusieurs questions. D'abord, cette parole des jeunes dont j'ai parlé, quelle est sa place en termes institutionnels? Voilà. Quels effets sur les pratiques enseignantes? Et quelle transformation de la profession, une formation professionnelle initiale, cela peut générer.